Finalement, alors ça à propos de science et civilisation, il faudra poser le problème, quel type de civilisation voulons-nous, n'est-ce pas? Est-ce que certains aspects de l'homme ont été à ce point méconnus qu'un beau jour, eh ben, l'homme va tout rejeter? Et alors finalement, c'est le problème. Si ça devient de plus en plus difficile de devenir un scientifique, parce qu'il faut être très loin, si d'autre part, l'accumulation des connaissances devient tellement gigantesque qu'on ne pourra plus former des étudiants, et que des étudiants se révoltent dans le monde entier à cause de cela, alors, où, et c'est la question de Carréry, où la science va-t-elle recruter ses servants? Où? Elle ne peut le recruter que parmi les étudiants. Et si les étudiants rejettent ces connaissances trop lourdes dont on veut les charger, où allons-nous les recruter? Je crains qu'il n'y ait peut-être là encore un facteur limitant. Et alors on débouche, alors... sur quelques images anciennes des mythes. Le mythe du rocher de Sisyphe. L'homme pousse son rocher. Et puis, il se croit arrivé au sommet. Et le rocher redescend et l'écrase. Il y a là quelque chose, il y a un effort, enfin, le mythe prométhéen. Cet homme qui veut changer le monde, qui veut changer la vie, et qui finalement se heurte à des limites inéluctables. Il y a donc à la fois quelque chose de grandiose, de chargé d'espoir dans cette démarche de l'homme scientifique, et peut-être finalement qui se terminera d'une manière désespérée à cause des limites qui seront atteintes.
Il y a presque le thème le plus important, parce que il englobe. D'abord, un sujet important, c'est la mort de la science en elle-même.
Comme on l'a dit, la mort de Dieu, n'est-ce pas ? C'est moi qui viens d'inventer le mot, n'est-ce pas ? Et c'est un thème très nouveau, parce que si on dit ça, ça va faire scandale. Exactement. Comme le mot mort de Dieu a fait scandale.
Ouais. Et je pense qu'il y a là-dedans quelque chose qui nous tient à vous, à cœur aussi, qui m'intéresse, qui est par là une remise en cause de la société telle qu'elle existe, puisque la société à l'heure actuelle rejette. Enfin,
oui, mais alors j'aurais l'air d'être un... Je vais commettre là un péché de lèse-science. Et là, je sais que beaucoup d'hommes de science considérant comme intolérable une telle hypothèse, de même que beaucoup de croyants considèrent comme intolérable la forte expression de la mort de Dieu, inventée par un théologien suisse, je crois, d'ailleurs.
Je pense que ce serait là le sujet d'un débat extraordinaire. Ça, alors, je crois que En se limitant à ça, la mort de la science, je crois que là, on peut quelque chose de très important. Je dirais, presque plus important que l'exposé qu'on a fait, Liberté, qui est, je dirais, un sujet de réflexion que l'on peut aborder de l'autre façon, que l'on peut, qui est un soliloque, qui est quelque chose. La mort de la science, ça me paraît être tout à fait frappant. Ça me paraît être encore plus ambitieux que le reste, mais c'est plus circonscrit. Et ça me paraît, à vrai dire, préférable. Que pensez-vous?
Écoutez, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que... ça sera... Il faudrait que vous trouviez des hommes qui soient disposés à accepter cette idée-là, si on la lance, n'est-ce pas? Et je ne suis pas certain... Là encore. Moi, j'aurais voulu personnellement lancer cette idée-là.
Oui.
Si vous en faites un thème à plusieurs, je ne peux plus lancer. Ça, c'est aussi un aspect. Vous savez, au fond, finalement, je pense alors à mon témoignage personnel dans tout cela. Je vis l'aventure de la science. J'ai même écrit que en l'homme de science, héros et démiurge, la conscience, les chances et les drames du monde sont ou seront vécus avec une conscience aiguë. Et c'est cette espèce de conscience aiguë que j'essaye de voir, c'est pas confortable tous les jours, vous imaginez. Là encore, c'est moi qui voudrais, au fond, porter ce message-là, si vous voulez, si c'en est un. Voilà. Si c'en est un. Voilà.
comprenais pas. Mais voilà. Là, je verrais très bien l'équivalent de ce que l'on a fait tout à l'heure. Un début, là, la chose me paraît plus condensée. On peut faire un début, une introduction d'une dizaine, douzaine de minutes, suivi à ce moment-là d'un débat extrêmement tiré qui pourrait même aller au-delà de la demi-heure, moi, ça ne me gêne pas.
Oui, mais ils sont d'accord, les autres, le Canada et les autres. Bah, on vous donne combien de temps?
Il faut qu'on en discute maintenant. Pour l'instant, c'est une idée en l'air. Il faut encore faire accepter celle-ci. Mais elle me paraît intéressante, elle me paraît importante et elle me paraît apte à faire quelque chose. Non, elle me paraît digne d'une audience de cette importance-là.
Ah, ou même l'autre aussi, vous savez.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que...
Comment on va faire scandale, là, hein? Proclamer la mort de la science,
c'est
comme on a dit, on a proclamé la mort de Dieu. C'est vraiment une expression scandaleuse.
Malheur parti le scandale arrive, mais c'est un scandale qui nous viserait de lancer, parce qu'effectivement, il y a quelque chose.
Ça, vraiment. C'est un
scandale. Ça me plairait, alors. Ça me plairait.
Bah, vous n'avez pas perdu votre temps, alors, aujourd'hui.
Oh non, non. Même avec ce que j'ai là, j'ai quelques sujets de réflexion, personne ne prend du temps. Mais maintenant, alors, le problème se pose... qui, selon vous, pourrait avoir un format à la pression critique et humaniste pour pouvoir répondre à ça?
Écoutez, vous savez, cher ami, vraiment, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Moi, chaque fois, écoutez, ma difficulté, moi, c'est d'essayer. Déjà, le problème que je me pose chaque fois que je veux construire mon institut de la vie hors de France, ou même en France, c'est difficile. Hein? C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile.
Je repars du principe que vous connaissez intimement plus d'hommes de science que moi, parce que je suis depuis plus longtemps dans la science que moi je suis quelqu'un, dirais-je. Ayant d'autres activités avec l'émission, étant un homme de télévision, elle est en fait.
Non, voyez-vous pourquoi? Je vais vous dire pourquoi c'est très difficile. C'est parce que il faut des hommes qui aient le sens du tragique. Et des hommes de science, non pas tous, ils s'en foutent beaucoup, le sens du tragique. Il faudrait camper l'homme de science comme un héros tragique. Or, et ça s'accorde assez bien, du reste, avec la sensibilité de notre temps. Mais Jacques Monod, par exemple, ne se campe pas du tout comme un héros tragique. Alors que peut-être il y a une tragédie de Jacques Monod, mais il ne veut pas en être conscient. Je ne veux pas du tout diminuer Jacques Monod dans cette histoire-là. Mais lui, il se campe au contraire comme un scientifique triomphant dont la vie est un exemple de glorification de la science, dont la vie est l'œuvre. C'est à la fois rejoindre la sensibilité publique la plus profonde, n'est-ce pas, qui rejoint enfin, le scientifique héros tragique qui participe à la tragédie du monde et en même temps heurter l'image classique qu'on se fait de la science. Mais le héros tragique, on l'a déjà senti chez Oppenheimer. On a commencé à soupçonner qu'il n'y avait pas que le héros triomphant et heureux, n'est-ce pas? On pourrait aussi faire un thème, le héros tragique, n'est-ce pas? Le savant héros tragique, n'est-ce pas? Et la mort de la science. Vous voyez, il y a quelques belles expressions, au fond. Ça va, alors, vraiment, il faut trouver des hommes qui aient le sens... Quel sens de cette tragédie du monde? Voilà, je ne sais pas qui c'est.
Il me semble de parler beaucoup, de donner des thèmes, de trouver des choses. Je pense qu'il faut maintenant un peu de réflexion.
On a bien fait d'enregistrer de toute façon.
Manifestement. Je crois qu'il serait bon de l'autre côté de réfléchir à ce problème. Pour trouver les hommes, parce que maintenant, c'est du temps blanc.
Le problème, c'est que vous voulez que ça soit fait pour juin.
Oui. Oui, il faut trouver un parti. Voilà la règle du jeu. Pour l'instant.
Alors, voilà, je crois quand même, il y a une chose importante quand même. Finalement, ce qui dépasse un des problèmes qui va se poser et qui se pose aux nations, c'est la politique de la science. Alors ça aussi c'est un aspect important, c'est aussi un mot important, qui doit du reste s'identifier avec la politique de la vie. Il faut, et la politique de l'espèce. Il faut définir une politique de la science qui ne soit pas en contradiction avec la politique de la vie et la politique de l'espèce. Alors pour ça, et là encore, ça fait partie des grandes options, devant lesquelles, que nous le voulions ou non, la science nous place, puisqu'elle va jusqu'au bout de sa logique. C'est même une option qui est devenue consciente pour certains gouvernements. Et je pense que ça, c'est très intéressant et c'est très important. C'est-à-dire, nous pouvons tout faire. Nous pouvons orienter la science dans telle direction ou dans telle autre. Qu'est-ce que nous allons choisir comme politique? Dans quelle direction allons-nous choisir, allons-nous orienter la science? Alors là, il y a un homme qui s'occupe de cette question. C'est un homme qui m'a fait forte impression. C'est le président de la commission scientifique du Canada, qui est francophone. Il s'appelle Gaudry. C'est le recteur de l'Université de Montréal. Et c'est lui qui est chargé de définir pour le Canada la politique de la science. Allez, je le connais, moi. Alors là, je sais qu'il va venir à Paris au début mai. Donc, vous pourrez l'avoir. Il est là le 2 mai, le 12 mai. Voilà. Il m'a été désigné par le gouvernement du Canada. C'est un homme de très grande classe, de très haute stature, manifestement, et infiniment respecté au Canada. Un homme de très très haute stature. Et lorsqu'il m'a parlé de la politique de la science, il m'a donné quelques exemples. Il m'a dit par exemple, le blé. Nous pourrions décider de trouver des procédés pour que le blé produise deux fois plus. Les mêmes plants de blé. On peut améliorer la productivité du blé. Mais voyez les conséquences. Le Canada va produire deux fois plus de blé. Il n'a pas l'infrastructure logistique de routes et de canaux pour le transporter et le blé va pourrir sur place. A dit, il y a eu pendant 15 jours une grève des nautonniers qui transportaient le blé par les fleuves du Canada. Le blé a pourri sur place. Donc rien n'est facile, il y a des problèmes d'options. Nous sommes les propriétaires, dit-il, au Canada, d'immenses territoires glacés de l'Arctique. Comment est-ce qu'on va polariser la science là-dessus, pour l'exploitation de ces territoires? Alors il va falloir tomber d'accord avec les Russes, parce qu'ils sont les seuls à avoir une expérience là-dessus. Cette politique de la science va engager la politique des nations, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un problème de politique de la science. Ah, oui. Alors, non, pas forcément, non. Lui, c'est dans une conception moins dramatique, je dirais. Il dit, et c'est une conception, alors, d'homme de gouvernement, pour ainsi dire, de conseiller personnel du Premier ministre, n'est-ce pas? Vraiment, lui, c'est la science, science et gouvernement, si vous voulez.
Mais la mort de la science passe forcément par une autorité politique, une politique de la science. Si on n'applique pas une politique saine de la science va à la mort.
Il y a cela, oui, c'est vrai, mais même dans une vision moins tragique. Imaginez une vision de développement heureux de l'humanité qui continue son petit train-train sur cette petite planète. Malgré tout, ce pouvoir de la science, on va l'engager. Enfin, c'est la question simplement de l'option, du choix des sujets de recherche. C'est tout, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va choisir comme sujet de recherche? Et remarquez bien que là aussi, les options, alors ça c'est très intéressant à propos de la politique de la science, assez souvent ces options ont été inconscientes et n'ont pas été conscientes. Et ça c'est très intéressant aussi. On est frappé de voir à quel point les gouvernements n'ont pas de vision globale des problèmes de leur peuple. Et un des signes, c'est les quantité d'argent, les sommes, les crédits attribués à chaque domaine de la science. On pourrait faire comparaître le directeur du centre suisse, du Fonds national suisse scientifique, pour lui dire, faites une statistique, vous avez telle somme d'argent, qu'est-ce que ça représente par rapport au revenu national, pour savoir quel est l'effort conscient, concerté, des pouvoirs publics pour la science de la Suisse, sachant bien que ça ne représente pas l'ensemble des forces suisses, puisqu'il y a toutes les industries qui font aussi une recherche importante. Mais enfin, déjà ça, c'est de toute façon un point de repère. Et là-dedans, faites-moi la ventilation des crédits. Est-ce que vous avez donné plus pour la physique? combien pour la biologie, à l'intérieur de la biologie, combien pour le cancer, ou combien pour la biologie fondamentale, pour les recherches appliquées, etc. Et vous aurez là, que vous le vouliez ou non, comme dans un miroir, les options d'une société. Et vous serez alors frappé de voir à quel point, finalement, ce sont des options de puissance qui sont prises, et pas toujours des options de vie. Des options de prestige, des options de puissance, des options pratiques d'efficacité, le reste ne venant qu'après.